Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas Tvatman à la technique. Oui, première partie d'émission, voilà. Oh, c'est mardi, c'est rare que j'ai des invités les mardis. Hein. En première partie d'émission, une invitée qui va nous parler de son parcours artistique en tant que danseuse au Grand Ballet canadien de Montréal, Tatiana Lerebourg. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Louis-Philippe Hébert, qui est romancier, poète, nouvelliste, dramaturge, essayiste, critique. Il va parler de, on parle de son, ouais, de la littérature et puis de mois de la, du mois de la francophonie. Comme vous le savez, c'est le mois de la francophonie, le mois de mars. Le mois de mars, oui, les rendez-vous francophones. On part tout de suite en musique avec Suzy Ice au saxo, avec la complicité du DJ Maforiza. On y est. Suzy ISS avec la complicité des DJ Maforiza. On l'y eu. Notre invitée Tatiana Lerebourg, la grande danseuse au Grand Ballet, qui va nous parler de son parcours artistique en tant que danseuse. Voilà. Je ne sais pas quelle mouche il a piqué pour se lancer dans, dans cette carrière de chanteuse de ballet. Sur la pointe des pieds, j'ai dit, mais il n'a pas peur de faire mal à ses orteils. Ou bien quelque chose comme ça, ces gens. Bonjour Tatiana Lerebourg.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci et vous?
Oui, ça va bien, merci.
Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de votre parcours. Là. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la danse?
Ça
ne parlait pas.
Ah ouais? Je n'ai pas bien ça. Ben, honnêtement, à vrai dire, je ne sais pas vraiment. En fait, parce que j'ai commencé, j'étais toute petite. Moi, dans mon souvenir, le ballet, la danse, ça a toujours fait partie de mon quotidien.
À la maison, ça dansait, maman, papa?
Oui, mais papa, non, mais maman, quand elle était plus jeune, en Haïti, oui, elle a dansé.
Oui.
En Haïti.
Oui.
Et moi, j'ai toujours... elle m'a dit, quand j'avais 2 ans, c'est là que je lui ai demandé d'aller faire du ballet, puis elle m'a inscrit. Donc, pour moi, ça a toujours fait partie de mon quotidien.
Ah, elle ne s'est même pas opposée.
Non, pas du tout.
Ah ouais. La toute petite Tatiana, comment elle a réagi quand la maman a dit « Oui, ok, je t'accompagne.
» Oui, bien sûr. Je pense qu'elle voulait même avant qu'elle m'aille, elle voulait une petite danseuse.
Ah, je comprends. Ouais. Son non-opposition, quoi. Là. Bon, voilà, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire quand elle était dans mon ventre. Alors, comment Tatiana est arrivée pour aller prendre des cours là, à l'école supérieure de Grand Ballet, là, dans cette école?
Oui.
C'est pas, on rentre pas là-bas comme ça. Hein.
Non, c'est ça. Donc, j'ai commencé à 2 ans. C'était à l'Académie de ballet classique. Donc, c'était dans le même immeuble que l'école supérieure.
Oui.
Après ça, quand j'ai commencé à 2 ans, et après ça, à 8 ans, c'est là, dans le temps, à l'époque, c'était en troisième primaire qu'on commençait le programme professionnel de l'école supérieure.
Oui.
Donc là... les professeurs de l'académie parlaient à ma mère. Ils disaient que j'avais du potentiel, du talent et que je devrais essayer.
Ils ont découvert quelque chose en vous.
Oui, je suppose.
Ah ouais. Oui, allez-y.
Et oui, donc j'ai essayé, j'ai fait l'audition pour aller à l'école.
Oui.
Et j'ai été acceptée pour faire le stage d'été.
Oui.
Après ça... Donc, j'ai fait le stage d'été, j'ai été acceptée. Puis, je suis rentrée à l'école supérieure, programme professionnel, à 8 ans, troisième année primaire. Et,
à 8 ans?
Oui.
OK.
Et puis, après ça, donc, j'ai fait tout mon primaire, le secondaire, et puis j'ai fait 2 années au collégial. Normalement, c'est 3.
Oui.
Mais... à la fin de ma 2e année au collège, j'ai eu un contrat pour être au Grand Ballet. Donc, j'ai gradué 1 an avant, en fait. Et je suis arrivée au Grand Ballet en juillet 2019, officiellement.
Bravo. Merci. Félicitations. Oui. Non, à 8 ans déjà, au cycle supérieur. Non, c'est... Alors, le plaisir est toujours là.
Oui.
Comment ça se passe? Parlez un peu de la journée. Parlez-nous un peu de la journée d'une danseuse professionnelle comme vous. Ouais.
Ah, alors, la journée d'une danseuse au Grand Ballet,
oui.
Ça commence à 10h le matin.
Mm-hmm.
Donc, on fait la classe de ballet qui est notre classe d'échauffement, en fait, vraiment. Donc, on y va, on fait les exercices de ballet qu'on a fait quand on est à l'école.
Oui.
Et pour nous réchauffer, nous préparer à notre journée.
Mmh.
Et aussi, c'est le moment aussi qu'on a pour travailler notre technique et s'améliorer.
Oui.
Et donc, c'est ça, de 10h à 11h15.
Mmh.
Après ça, les répétitions commencent vers 11h30 jusqu'à 6h le soir, à peu près. On répète des ballets ou des pièces contemporaines.
Oui.
Oui.
Mais est-ce que vous savez que vous êtes la première femme noire d'origine haïtienne qui a fait son entrée au Grand Ballet? Hein?
Oui, ben, femme noire, non. Mais
non, d'origine haïtienne, j'ai dit. J'ai précisé.
Oui.
Voilà. Dans la communauté, comment c'est vu? On se dit, oh, elle fait du ballet, elle fait. Est-ce que c'est. Comment ça se passe? Ouais.
Ben, les gens sont surpris, ils sont contents. Je pense que c'est aussi beaucoup de fierté, surtout tu sais, dans les temps qu'on est en ce moment, les gens, quand ils voient des personnes noires être dans des métiers, tu sais, exceller ou et voir qu'ils aiment ce qu'ils font, je pense que ça les rend fiers de voir ça.
Oui.
Et ouais, je pense que c'est beaucoup de fierté, en tout cas autour de moi.
Oh, je peux comprendre, mais moi-même, quand j'ai vu votre parcours, je me suis dit, là, c'est la première noire d'origine haïtienne. Ça, quand la communauté haïtienne ici, même les parents qui sont de l'autre côté là-bas, doivent dire, ouais, c'est notre fille, c'est notre cousine, c'est notre sœur, c'est notre nièce. Ça, c'est pas. Alors, il y a bientôt, et puis vous avez été, cette bourse-là de la Fondation de l'École supérieure de ballet qui vous a permis de faire tout ce parcours d'ailleurs. Et puis, ce n'est pas n'importe qui a droit à ces bourses-là. Ce n'est pas tous les étudiants, ce n'est pas tout le monde là-bas qui a droit à ces bourses.
Oui, effectivement.
Alors, et que, comment, quand vous voyez votre nom comme ça sur la liste de ceux qui ont droit à la bourse, comment Tania s'est sentie?
Ben c'est ça, je me sens vraiment reconnaissante. Et je veux dire, si on me donne une bourse, puis tu sais, ça, dans le fond, ça veut dire que tu peux pas te permettre de pas prendre cette chance que tu as et de
Ah
travailler.
oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, 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 faut pas rater l'occasion, quoi, parce qu'on la passe, ça
Ouais.
court, cette occasion, ça court pas les rues, hein.
Ouais, vraiment.
Bravo, merci. On fait une petite pause musicale et puis on vous revient, Tatiana.
D'accord.
Merci.
Street shooting down black babies. Glory, hallelujah for the young and the innocent. Yeah, run for your life. The time has come for us to strengthen our defense. Yeah, Babylon, you know it won't be long. Oh, and we'll be going back to Zion. Thank you.
Oh, Jaja, c'est le titre de la pièce. C'est vous de la voix, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est bien Eddie Murphy. Il ne fait pas que le clown ou bien du cinéma ou bien du stand-up. Il fait aussi de la musique. Eddie Murphy, Oh, Jaja. Voilà, avant de notre invité toujours avec nous, Tatiana Leroux, qui est du Grand Ballet du Canadien de Montréal. Cette danseuse d'origine, la première noire d'origine haïtienne dans ce grand ensemble d'ailleurs. Ce n'est pas la première noire, mais celle d'origine haïtienne, elle est la première. Ça, il faut le dire. Dans mes recherches, je suis tombé sur certaines choses, du primaire au collégial. Elle a été une élève appliquée, dynamique, avec sa grâce et sa musicalité. Tatiana, c'est de vous qu'on parle comme ça sur le site même de la Fondation de l'École supérieure du Ballet du Québec, hein?
Ah oui!
Dans mes recherches, quand vous entendez des choses comme ça sur vous, là, comment ça vous fait réagir?
Oh my God, je ne savais même pas.
Alors, il y a un spectacle bientôt là, du 23 au 27 mars, là, comment dire, Roméo et Juliette. Mm-hmm. Ces photos qui circulent partout, là, est-ce que c'est votre photo?
Non, les photos publicitaires, ce n'est pas moi, c'est ma collègue qui va aussi faire Juliette.
Oui.
Dans certaines vidéos, ça, oui, c'est moi.
Dans certaines vidéos, oui. Oui. Je me suis dit, ouais, quelle beauté, d'ailleurs. Et puis bon, ça permet quand même. Il y a une de vos, comment, la responsable de communication qui se trouve au siège là-bas de l'organisme qui nous a fait comprendre qu'il aura encore quelque chose qui va se passer en automne. Il se pourrait que Tatiana fasse partie de cette prestation-là. Alors, je ne sais pas si c'est déjà tombé dans vos oreilles.
Oui.
Expliquez-nous un peu. Moi, j'aimerais bien vous voir sur scène. Hein. Ah là là là, expliquez-nous un peu.
Oui, donc, on va faire une reprise de Roméo et Juliette.
Oui.
Et je vais faire Juliette.
Wow. Ouais.
Oui.
Et comment ça se passe? Quand on apprend des nouvelles, comme ces genres de nouvelles-là, quand on apprend ces genres de nouvelles-là, comme ça, pour une jeune qui n'a même pas 10 ans de carrière, disons,
ouais.
Voilà, qui vient à peine de sortir, qui va jouer dans ce ballet néoclassique, Roméo et Juliette, comment? Mm-hmm. Tatiana se dit, mais le talent y est, quoi. Sinon quoi, je ne serais pas là. Oui.
C'est vraiment, tu sais, c'est un rôle. Tu sais, Juliette, c'est un des rôles que toutes les jeunes danseuses veulent faire un jour dans leur carrière.
Oui.
Donc, c'est vraiment comme réaliser un rêve. Par contre, avec cette réalisation de rêve, il y a aussi, on réalise qu'il y a beaucoup de pression et beaucoup de stress qui vient avec des rôles principaux.
Oui.
Donc, je suis très contente. Par contre, c'est ça, il y a beaucoup de... Je mets beaucoup de pression.
De quel genre de pression? Pourquoi ne pas prendre les choses telles qu'elles viennent? Je veux dire.
Je sais. Je pense que je ne suis pas si stressée. Déjà, là-bas, je ne suis pas quelqu'un qui est si stressée. Par contre, je pense... La pression qu'on met sur nous-mêmes, c'est une pression, c'est on veut performer correctement, on veut bien faire le rôle.
Oui.
On veut pas décevoir les gens qui nous ont donné ce rôle.
Oui.
C'est surtout que, tu sais, dans la compagnie, il y a d'autres personnes qui ont des rangs plus élevés.
Oui.
Qui devraient, en théorie, faire Juliette avant quelqu'un comme moi.
Oui.
Donc, il y a aussi ça que je dois montrer que je suis capable d'effectuer un rôle comme ça à mon âge et à mon niveau.
Oui.
Donc, c'est tout ça, en fait, vraiment.
Qu'est-ce que représente la danse pour vous, la danse?
La danse, ça représente, je dirais, c'est ma vie, en fait. C'est comme je disais au début, ça fait partie de moi depuis mon plus loin souvenir, la danse, c'est toujours, c'est ma vie, donc ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Donc ça représente pas mal, une bonne partie de ma vie, pas mal tout, ouais.
Mais ça, du coup, vous ne vous voyez pas en train de faire autre chose, quoi?
Ben... J'ai des passe-temps et tout, mais...
Ouais.
Mais, ouais, non, la danse, c'est... Ça, c'est beaucoup pour moi.
Bon, est-ce que s'il y a des jeunes filles de votre quartier ou de votre environnement où vous habitez, qui ou bien de votre école, ou bien de vos connaissances, les enfants de vos connaissances qui viennent vous voir pour vous poser des questions pour savoir comment est-ce que, si elles sont intéressées, elles aimeraient faire ce que vous faites actuellement, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner?
Moi, je leur dis d'y aller à fond. Je veux dire, si l'enfant a un potentiel, elle a un talent et elle aime ça et elle veut faire ça, ben pourquoi pas?
Oui.
Moi, c'est vraiment ça mon conseil. Mm-hmm. Et que les parents sont aussi qui supportent.
Il faut le support. Hein. Il faut le support pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est pas...
Absolument.
C'est pas donné. Ouais. Comme j'ai souvent dit ici, sur les ondes de Canal M, c'est pas tous les artistes qui arrivent à vivre de leur art.
Mm-hmm.
Ouais, avoir une formation, oui, d'accord, mais après, il faut arriver à vivre de son art. Et puis d'abord, d'ailleurs, c'est parce qu'on a fait l'école supérieure du ballet du Québec, qu'on est recruté par les grands ballets. Il faut vraiment avoir ce talent et avoir marqué les esprits là-bas pour qu'on dise, voilà, pour pouvoir aller là. Donc, il y a une petite crainte vers la fin de la formation. On se dit, mais est-ce que je vais être retenu, au fait, par les grands ballets? Voilà, on se dit ça. Est-ce que ça a été votre cas?
Dans mon cas, non. Ça a été plutôt facile pour moi d'entrer. Comme je vous dis, j'ai eu mon contrat avant d'avoir terminé.
Wow.
Donc, parce que j'étais au courant que le directeur artistique était intéressé et il appréciait mon travail.
Un parcours atypique.
Oui, on peut dire ça.
Ouais. On peut dire ça comme ça. Atypique.
On peut dire ça comme ça.
Ouais. Alors, tout ce que je vais dire là pour terminer là en beauté, je vais vous souhaiter bon vent. Mais moi, j'aimerais bien vous voir. On aimerait bien vous voir sur scène, hein, parce que pour l'automne, l'opportunité, ce qui commence là le 23, c'est juste le 23, 24, 25, 26 et puis 27. Et puis ce qui va revenir en automne, là, j'espère qu'on aura la chance de vous voir sur scène avec vos amis, vos collègues.
Oui, bien sûr. Mais aussi, déjà, on aura aussi dans notre spectacle au mois d'avril.
Oui.
Au mois
de juin. Ouais. Ouais.
Et oui.
Et auquel vous prenez, vous êtes dans ce genre de spectacle qui viennent au mois de juin, au mois d'avril, machin, tout ça.
Oui, ben oui.
Ah, d'accord. Je vais aller faire mes recherches pour savoir c'est quand, c'est où, et puis comment pour pouvoir en parler ici à cette émission. Alors, merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Au plaisir de vous réentendre d'ici quelques années encore pour dire c'est la danseuse, c'est la grande danseuse étoile qui a commencé toute petite à 2 ans. La maman voulait qu'elle devienne aussi danseuse, qu'elle soit danseuse. La maman l'a supportée, les parents l'ont supportée. Allez, bon vent, du courage et beaucoup de réussite dans vos démarches.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis parti de loin, je suis parti d'en haut, où rien n'est jamais trop beau. Le monde souffre sur la terre, c'est moi qui vis à l'envers. Je suis parti de loin, je partirai plus, comme si un soir j'avais trop bu. C'est fini ce temps-là, je suis plus le même gars. J'suis un homme qui a déjà vécu ça. Ah, 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 j'ai déjà vécu ça. J'ai-tu déjà perdu mes ailes? Quelqu'un m'a coupé l'éternel. J'ai plus besoin de voler si je peux me laisser m'aimer. Si je peux me laisser m'aimer. Je suis parti de loin, je suis pas revenu. J'suis encore en train de me battre dans la rue. Je veux dire ce que tout le monde pense pas. Ce qu'ils pensent, on le sait déjà. Pour une fois que je veux me laisser vivre, je suis fier de mon avenir. Y'a plus de danger si je m'aime juste moi.
pas moins compliqué. J'ai déjà perdu mes ailes, quelqu'un m'a coupé l'éternel. J'ai plus besoin de voler, si je peux me laisser m'aimer. Ah, 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 si je peux me laisser m'aimer.
Oui, c'était Thomas Argouin. Je vais me laisser m'aimer. Voilà. Oui, restez à l'écoute. Après, j'ai 2 minutes de blabla. Ok, d'accord. Parce que j'attends le générique dans mes oreilles, alors je me suis dit, c'est parti comme ça, quoi, c'est pas grave. Voilà. L'homme propose, la technique dispose. C'est comme ça. Alors, il y a le portrait de l'économie. L'économie à Roman Abramovitch, l'oligarque rattrapé par ses sanctions. Vous savez, c'est le patron de Chelsea. Hein, voilà. Alors que l'invasion russe fait des rages là-bas en Ukraine, les Occidentaux allongent la liste noire des dirigeants oligarques russes. Il s'est un proche de Poutine, hein, propriétaire de Chelsea, c'est le club de soccer en Angleterre, londonien d'ailleurs. La vente a été suspendue. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. Et la fortune est estimée à 13 milliards de dollars et qu'il n'accorde jamais d'interview. Non, on dit non, c'est pas le moment. Tu es un proche de Poutine. Tu vas vendre le club là. À qui tu vas donner cet argent pour aller financer la guerre? Aller supporter Poutine, ton ami? Voilà. Il fait un sourire. Je me rappelle un peu de ses vidéos, des yeux bleus, sourire timide. Il est toujours tiré à 4 épingles d'ailleurs. Voilà, et puis on verra bien quoi, ce que ça va donner. Voilà. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, mon invité est déjà en studio avec moi. Mon deuxième invité, Luc-Philippe Hébert, romancier, nouvelier, poète, dramaturge, essayiste, critique. On va parler de son parcours et du mois de la francophonie. Voilà.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Well, the road rolls out like a welcome man to a better place than the one we're at. And I ain't got no kind of plan. I've had all this town I can stand. And I got friends out on the coast. We can jump in the water and see what flows. We've been saving for a rainy day. Let's beat the storm and be on our way. It don't matter to me where we are, where I won't be. And honey, for once in our lives, let's take our chances and roll the dice. And I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over. This might not be an easy time. There's rivers across the hills to climb. And someday we might fall apart. And some nights might feel cold and dark. But nobody wins afraid of losing. And the hard roads are the ones we're choosing. And someday we'll look back and smile and know it was worth every mile. It don't matter to me where we are, where I won't be. And honey, for once in our lives, it's
take our chances and roll the dice. And I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over. Starting over. Take our chances and roll the dice. And I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over, starting over.
Merci Chris Stapleton, Starting Over. Voilà, mon invité est déjà avec moi en studio, on peut se permettre maintenant. Oui, il y a quelques semaines, la semaine passée, moi je ne recevais pas en studio, j'ai commencé. On nous a donné la permission maintenant puisque les consignes sanitaires s'allègent maintenant. Bon, on peut se permettre de recevoir nos invités en studio. Louis-Philippe Hébert est avec moi et il vient de me donner une copie de son dernier livre, Les noces la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent. Ah, j'ai bien dû dévorer ça. Alors, j'avais une copie déjà de l'autre la voyage entre avec ma sœur là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime ça d'ailleurs. Alors, il va nous parler. C'est un poète, c'est un romancier, c'est un novelliste ou bien un novelier comme vous voulez, un dramaturge, essayiste, critique en même temps. Critique en même temps. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est passé partout. Quand je vois un peu tout ce qu'il a écrit. Je ne vais pas vous faire la liste, là, on n'aura pas le temps de parler si je vous dis tout ce qu'il a fait, là. Mais quand même, il a été chroniqueur radio, délivré des hommes à Radio-Canada. Mm-hmm. On peut se permettre. Je peux citer un peu quelque chose, animateur radio au Pays des Livres, VV, scripteur, la jeune poésie québécoise, les bêtes de cinéma, etc. Et réalisateur aux émissions culturelles de Radio-Canada, théâtre radiophonique, documentaire. Critiques et recensions, séries documents, Le Pont des Arts, un écrivain et son pays, etc. Créateur de documents audiovisuels, ministère de l'Éducation du Québec, chroniqueur, la revue de... La liste est longue. Distinction. D'abord, administration, président, directeur général, édition logique de 87 à 2002. Logistique. Voilà, toujours de 82 à 97. Membre du conseil d'administration SIEC. Apoc, tu sais, 85 à 95, FIC 2003-2006, éditeur conseil à la vice-présidence Livre Charon, éditeur 2010, président l'Univers et compagnie Galerie d'objets de collection dédiés à la bande dessinée et au cinéma de 2002 à 2011, et Amérique Réalité, le président directeur général des éditions de la Grenouillère 2011-2021. Voilà, plus de 1000 livres publiés à titre d'éditeur. Littérature, informatique, éducation, vie quotidienne, psychologie, bande dessinée et autres. Distinction là, prix du gouverneur général en 2015 pour Marie Réparatrice. Voilà, prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 2008 pour le livre Des plages, finaliste au prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres québécoise 2008, prix Brigitte Fontaine de l'Académie de la vie littéraire au tournant du 21e siècle, ainsi de suite. Membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, où il a été reçu en 85 par le poète Gérard Godin, paix à son âme. Oui, alors ministre de Culture pour souligner l'exceptionnelle qualité de sa participation à la vie française en Amérique, informatique et littérature. Prix du français en informatique, office de la langue française. Prix Fierté Montréal, ville de Montréal, à 7 reprises d'ailleurs. Prix Entrepreneurship québécois. Prix de la Fédération. Alors, je ne sais pas. Louis-Philippe.
Il y a un ami qui m'a déjà dit ce serait plus facile de faire la liste de ce que tu n'as pas fait.
Voilà. C'est trop. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai arrêté, sinon on ne pourra même pas parler de...
On n'aura pas le temps de parler. J'ai eu la chance en dans les années 70.
Bonjour d'abord.
Bonjour,
je
bonjour.
Je ne vous ai même pas encore dit bonjour.
Déjà parti, là.
Ne vous ai même pas encore dit bonjour.
Non.
Oui, merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de votre parcours rapidement. Et puis ensuite, on va parler du mois de la francophonie, qui est le mois de mars. D'accord. C'est le mois de la francophonie. Vous êtes un amoureux de la langue française.
Bah oui.
Voilà.
C'est mon outil. Voilà.
Comment vous voyez la santé de la langue française dans notre belle province. On va parler de tout ça. Mais quelles sont vos influences? Qui vous a influencé même dans la littérature avant de vous lancer dans la littérature? Avec un background d'informaticien. Hein? Ouais, il faut pas l'oublier.
C'est un peu étrange hein, quand même.
Oui.
Mais du côté littéraire, allons du côté littéraire.
Oui, du côté littéraire.
Ce qui est arrivé, c'est que j'allais dans un collège classique à l'époque.
Oui.
Et nous avions des cours 6 jours par semaine. C'était un peu la méthode française ou européenne.
Du lundi au samedi.
Oui, c'est ça.
6 jours par
semaine.
Et
on avait des congés le mardi après-midi,
oui.
Le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Alors, on avait 3 après-midi de congés durant la semaine de 6 jours.
Oui.
Et j'étais plutôt indiscipliné. C'est
bien de le reconnaître.
Ouais.
Il y a des gens qui sont indisciplinés, mais ils ne le disent jamais.
Pas le choix.
Oh, ouais.
Et alors, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des retenues.
Oui.
Alors, en fait, c'était une sorte de petite prison. On nous installait...
Un genre de punition, quoi.
Une punition avec un pion qui nous surveillait pendant la période. Alors, on avait soit 1 heure, 2 heures ou 3 heures de retenue durant les moments de congé. Donc, durant les mardis après-midi, les jeudis après-midi, les samedis après-midi.
Oui.
Et évidemment, c'est long à mourir. Et on ne sait plus quoi faire à un moment donné. On se tourne les pouces. Alors, j'avais commencé à lire un auteur qui était publié aux éditions Garnier à l'époque,
oui.
Qui était une édition scolaire, universitaire. Et c'était Edgar Poe. Edgar Poe. Alors là, j'ai été fasciné. Alors j'ai voulu lire tout ce qu'Edgar Poe avait écrit. Et je me suis aperçu tout à coup qu'il n'avait pas écrit tant que ça. Et très vite, en l'espace d'un mois ou deux, j'avais complètement épuisé l'œuvre d'Edgar Poe.
Oui.
Alors je me suis tourné vers le traducteur. Et le traducteur, c'est un dénommé Charles Baudelaire.
C'est Baudelaire qui le traduisait.
Eh oui. Et la traduction était magnifique. Premièrement, parce qu'il comprenait très bien ce qu'il traduisait. Il comprenait très bien l'anglais, mais aussi le contexte de la Nouvelle-Angleterre.
Oui.
Et d'autre part, c'est un auteur absolument incroyable. Alors... Je me suis donc lancé du côté de Baudelaire après avoir été du côté de Poe. Mais je n'avais pas droit de lire Baudelaire parce qu'à l'époque, on avait des livres qui étaient à l'index et ils étaient dans ce qu'on appelait l'enfer d'une bibliothèque.
Oui.
Et par une permission spéciale, j'ai eu droit d'entrer dans l'enfer et j'ai pu avoir le livre qui était publié à la Pléiade, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à un missel, ce qui était très utile pour l'époque,
oui.
De Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal et autres textes. Et je dois avouer...
Et vous êtes parti avec le livre.
Voilà. On n'avait pas le droit de faire ça.
Un jeune parce que les Philippe Larsen.
Alors, je suis parti avec le livre qui ressemblait à un missel.
Oui.
Alors, à chaque fois qu'il y avait des trucs...
Vous l'avez encore, ce livre-là?
Oui. Oui, je n'ai pas pu le remettre parce qu'ils ont détruit le collège.
J'allais dire, bon, si les enseignants de l'époque nous écoutent, là, ils vont courir après vous. Ouais. Ils vont se dire, ah, c'est Louis-Philippe qui est parti avec ce livre qui nous manquait.
Alors, je me suis retrouvé avec ça. Et l'avantage, c'est que durant les grandes cérémonies religieuses et tout, comme ça ressemblait à un missel... papier Bible, oui, c'est le cas de le dire, papier Bible et couverture un peu comme en cuirette, là, en cuir. Alors, je lisais du Baudelaire pendant les offices religieux et ces trucs-là. Mais Baudelaire aussi n'a pas beaucoup écrit, finalement. Il a peu écrit et peu
publié.
Il
n'a pas écrit des milliers de livres.
Non, malheureusement. Alors, voilà l'origine de mon œuvre.
Ah oui?
Parce que là, j'y arrive. tout ce long préambule pour vous dire que, n'arrivant plus à lire de nouveautés de Poe, n'arrivant plus à lire de poèmes de Baudelaire, je me suis mis à les écrire. Alors, le mardi, durant ma retenue du mardi, j'écrivais un conte à la Edgar Poe, un peu comme Edgar Poe écrivait.
Oui, et le style de Baudelaire aussi, parce que c'est les deux que vous avez connus là, voilà. Jusqu'à présent.
Le jeudi après-midi, je corrigeais le texte, et le samedi après-midi, je me lisais avec délectation.
Une petite pause musicale, et puis je vous reviens. Allez, les profs de l'époque de Louis-Philippe Hébert, si vous nous entendez, le livre encore avec lui. Hein. On va en musique et puis on vous revient.
Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais, ou je voudrais la voir. Longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. C'est étrange peut-être, cette curiosité. Voir enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Où je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. Je sais déjà son parfum, aussi son écriture, ce mot doux chiffonné, oublié dans notre voiture. Je veux voir aussi l'hôtel, si tu as mis le prix, si la chambre était belle, et si c'était un grand lit. C'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire, cette envie d'avoir mal jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Je voudrais tout savoir, et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble, c'est idiot. Et te surprendre avec elle, quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles. Je veux te voir encore, t'observer dans la glace, et quand tu l'embrasses, rentrer ton ventre au matador. Je veux vos corps à corps, tous ces gestes oubliés, te retrouver encore tel. Je voudrais rester là, juste voir et comprendre tout ce que je ne suis pas. Je ne suis pas.
Patricia Cass, je voudrais la connaître. Waouh. Alors, mon invité est toujours avec moi. Lui, Philippe Hébert, nouvelliste. Il est nouvellier, lui, de dire. C'est nouvellier. Nouvellier. Poète, romancier, dramaturge, essayiste, critique. Voilà, ancien animateur de radio. Pourquoi pas, il faut le dire aussi. Hein. Donc, voilà. Et puis, on va parler maintenant. On va parler du mois de la francophonie. Tout le mois de. Chaque année, c'est comme ça, le mois de mars. C'est le mois de mars. C'est ce mois de mars qui porte beaucoup de chapeaux, d'ailleurs. C'est le mois de la sensibilisation, le cancer du côlon. Oui, j'avais reçu un médecin ici pour. Parce que j'aime pas le temps, donc je vais en parler comme ça jusqu'à la fin du mois de mars, d'ailleurs. Et c'est le mois de la poésie aussi. Après, il va y avoir la journée internationale de la poésie. Ouais. C'est le mois de la francophonie. Mmh. Et on peut dire aussi que c'est le mois de la femme aussi, hein, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Voilà,
oui.
Et bon, oui, oui. Même si le 8 a été la journée internationale des droits de la femme, des droits des femmes, bien tout sûr, ça. Oui. C'est un mois qui porte beaucoup de casquettes, disons. Alors.
Moi aussi.
Lui, Philippe Hébert, comment se porte le français au Québec?
Parfois, c'est décourageant un peu parce que.
Pourquoi? Non, faut pas décourager les gens. Là.
Non, faut donne pas décourager les gens, mais parfois, ça peut être décourageant.
Oui.
Et quand c'est décourageant, il faut réagir. Oui. Alors, et parfois, ce que je remarque, c'est que lorsque les gens manquent de vocabulaire,
oui.
Lorsque les gens ne savent plus s'exprimer, lorsqu'ils ne peuvent plus exprimer leurs craintes, leurs peurs, leur angoisse, mais aussi leurs désirs.
Oui.
Ils deviennent violents. Et c'est l'horreur. J'ai en horreur la violence. Je trouve ça épouvantable. Et ce que je constate de plus en plus, malheureusement, c'est que... Et peut-être que c'est aussi un effet de la pandémie. Non, pas nécessairement de la pandémie en tant que telle, mais du confinement, du fait qu'on a été empêché de socialiser, d'être en contact avec d'autres personnes.
Oui.
Les gens ont tendance maintenant à recourir à des... Je dis les gens, c'est pas les gens, ça n'existe pas les gens. À la télé, par exemple, on voit beaucoup des expressions qui sont très violentes, très vulgaires.
Oui.
Et ce sont des modèles. Ceux qui écoutent ces émissions ont tout à coup devant les yeux des modèles de comportement qui sont, quant à moi, à proscrire.
Oui.
On ne doit pas se crier par la tête.
Oui.
La violence, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une force. Mm-hmm. D'ailleurs, présentement, on le voit très bien où cette faiblesse peut mener.
Oui.
Mais revenons un peu à la langue française.
Dans notre belle province.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu des poules, mais j'avais une ferme.
Oui.
Et à Saint-Denis-sur-Richelieu, le village des Patriotes. Alors, c'est un endroit absolument magnifique. Et j'élevais des poules. Voilà. Je voulais absolument le dire. C'est très, très important pour moi. Mais ce qui est encore plus important, c'est que j'avais un contact extraordinaire avec les gens du village et les gens de la campagne qui venaient me voir parce qu'ils venaient chercher des œufs. Et moi, on échangeait des trucs, c'était du troc, là.
Comme à l'ancien temps.
Voilà, j'avais des pommes.
C'est revenu aussi. À la mode, d'ailleurs.
Oui, j'avais des pommes, j'avais des œufs. Et lorsque je m'adressais à ces gens du village, j'avais tendance parfois à écourter un peu les phrases, choisir des mots en me disant « ce mot-là, ils vont le comprendre, mais ce mot-là, ils ne comprendront pas ».
Oui, oui.
Et à un moment donné, il y a une dame qui était absolument fascinante, une vieille dame, qui me dit « lorsque vous faites ça, vous choisissez des mots comme ça qui sont en dessous de ce que vous pensez qu'on peut comprendre. »
Oui.
Vous nous insultez. Et là, j'en ai eu un frisson.
Oui, oui, oui.
Parce que ce qu'elle me disait ensuite, c'était... Si nous ne connaissons pas le mot,
oui.
Nous voulons l'apprendre.
C'est ça.
C'est notre langue. Et nous voulons non seulement l'apprendre, mais une fois que nous l'aurons appris, ce mot,
oui.
Nous voulons le dire à d'autres pour que d'autres le sachent aussi.
Oui.
Et comme faire circuler l'information et tout. Et ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. J'ai compris que... Et ça m'a rappelé un peu ma grand-mère aussi, qui écrivait magnifiquement bien. Et c'est une réalité qui est tellement importante pour un peuple que d'être respecté dans sa langue. Et non seulement entre les gens qui la parlent, mais aussi par les autres, par ceux qui les approchent,
oui.
Que ces gens-là puissent être respectés, mm-hmm. avoir une fierté, parce que notre langue, c'est notre fierté. Voilà.
Oui, oui. Et quand vous avez... Oui, parce qu'il y a pas mal d'analphabètes fonctionnels.
Oui.
Oui. Ce mois de francophonie pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça permet à beaucoup de gens de se dire, voilà, il faut sauver la langue dans notre belle province? Je sais qu'on est entouré, nous sommes entourés de millions d'anglophones, ça c'est clair. Oui. C'est ça, c'est là le combat. Sinon,
oui.
En France, les gens se grattent pas la tête pour dire, bon, là, le français va disparaître. Ils sont pas entourés de millions d'anglophones ou bien d'alémaniques ou bien je ne sais quoi.
Voilà.
Mais ici, c'est pas le cas. Je comprends. Tout le monde comprend le combat.
Voilà. Alors il faut. Il faut se défendre avec la qualité.
Oui.
Alors, voilà la façon de se défendre.
Oui.
Et non pas, et c'est un peu ce que me disait cette dame, c'est donnez-nous de la qualité.
Oui.
Ne nous considérez pas comme des gens à qui on donne des choses qui ne sont pas de qualité et tout ça. Donnez-nous de la qualité et de la qualité de la langue.
Oui.
C'est ce qu'on voudrait. Mm. Vous savez, moi, je me suis rendu à un moment donné, peu de temps après ça, je me suis rendu en Californie rencontrer les gens de Apple qui venaient de concevoir un ordinateur, un petit ordinateur. C'était, il n'y en avait pas au Canada, mais il y en avait en Californie. Et le Wozniak, il y avait les deux Steve. Il y avait Steve Jobs, Steve Wozniak. J'étais avec Steve Wozniak. C'était comme vous et moi. Alors, on était autour d'une table comme ça. C'était très simple. Et à un moment donné, je lui dis, vos claviers que vous êtes en train de fabriquer, tout ce qui apparaît à l'écran, c'est toujours en anglais. Je dis, pourquoi vous ne nous laissez pas faire des trucs en français? Et là, il m'a dit, en anglais, how come a smart boy like you writes in French? Alors là, j'étais absolument choqué. Mais là, je lui ai expliqué que ce n'était pas le seul à parler français. Premièrement, il y avait la France au complet.
Oui.
Non seulement la France, mais toute l'Europe. Mais il y avait aussi le Québec. Et on était absolument inconnus. On est dans les années 70. Ils ne savaient même pas qu'on existait là,
à
cette époque-là.
Sans compter les 14 pays francophones en Afrique.
Oui, ah oui, absolument. Il ne faut pas les oublier non plus. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai démarré à ce moment-là une entreprise d'informatique. Et ça a été la première entreprise à fabriquer des logiciels en français pour ce qu'on appelait à l'époque des micro-ordinateurs, qui maintenant s'appellent des ordinateurs.
Tout simplement. Oui.
Voilà.
Wow. Alors, si je sais que vous allez revenir nous voir ici, d'ailleurs, comme on disait, hors onde, pourquoi pas nous voir venir faire des chroniques une fois par mois sur la langue française. C'est très important, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur.
Oui, beaucoup.
Oui. Ça va nous plaire, ça va nous faire plaisir pour que les gens qui l'analphabétisme, c'est quoi? Si je vous demande, c'est quoi? C'est quoi un analphabète?
L'analphabétisme, c'est quelque chose qui est extrêmement... En fait, c'est quelque chose d'épuisant.
Oui.
Toujours à la campagne, à cette époque-là, juste avant l'informatique, il y a un type du village qui me dit, qui avait un gros camion et tout, et il me dit, accompagne-moi en ville. Alors, je dis, bon, d'accord. Il dit, je m'en vais à Montréal. D'habitude, il faisait des livraisons dans les environs, mais là, il s'en allait à Montréal. Et là, partout, à tout moment, il me disait, peux-tu me dire quelle est l'adresse écrite sur le papier? Quelle est ci, quelle est ça? Mais je dis, pourquoi tu ne le regardes pas? Ben, il me dit, j'ai pas mes lunettes. Mais le plus drôle, c'est qu'il avait ses lunettes. Il les avait sur le nez, ses lunettes. Il me disait, j'ai oublié mes lunettes.
Et il les avait sur le nez.
Alors, il était analphabète. Il m'a expliqué comment il faisait pour se débrouiller dans une ville comme Montréal, pour s'y retrouver. Et simplement à écouter l'explication, c'était épuisant.
Épuisant, oui. Merci beaucoup, Louis-Philippe Hébert. On se revoit bientôt.
Bien sûr.
On va en parler après la fin de l'émission. Merci à vous d'être venu brosser.
C'est moi qui vous remercie.
Ça va tellement vite.
Ben oui.
Oui. On dit merci à notre invitée, Tatiana de Rebourg, la danseuse au Grand Ballet, qu'on aura l'occasion de voir sur scène bientôt. Merci à toi, Nicolas. Merci à nos fidèles auditeurs et on se retrouve demain. Je vais pas te laisser me couper, hein. Ouais, je vois le décompte qui vient tout de suite là. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Merci, Louis-Philippe Hébert.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.